19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Si la vaccination nous apporte cette possibilité-là, de pouvoir revivre normalement, c'est un atout supplémentaire.
400 000 travailleurs de deuxième ligne bénéficieront de créneaux de vaccination dédiés dès la semaine prochaine. Caissiers, éboueurs, chauffeurs routiers, à condition d'avoir plus de 55 ans.
Le vaccin Johnson & Johnson comporte davantage de bénéfices que de risques. L'Agence européenne du médicament ne déconseille pas son utilisation. On verra de quelle façon ça va booster la campagne de vaccination en France.
Des policiers en colère, écœurés après le verdict du procès de Viry-Châtillon. Ils ont manifesté dans toute la France à la mi-journée, notamment à Lyon. On les entendra. Et puis la mort du président tchadien Idriss Déby, tombé au combat en guerrier. La communauté internationale s'inquiète pour la stabilité de la région. Didier François nous dira qu'il était un allié précieux des Français en particulier.
La météo avec Anissa Haddadi, de la pluie et de la pluie sur le quart sud-est.
Oui, du massif central à la Provence en passant par la région Rhône-Alpes. C'est vrai que sur le grand quart sud-est, le ciel est menaçant demain, la journée humide. Ailleurs, c'est mitigé, partagé entre nuages et soleil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On les a surnommés les travailleurs de deuxième ligne. Ça fait un moment qu'ils réclamaient d'être vaccinés. Eh bien, ce sera possible dès la semaine prochaine.
Et ça concernera 400 000 personnes de plus de 55 ans. Olivier Samin va nous expliquer tout ça. En tout cas, pour Daniel, qui est caissière, il était temps.
C'est une très bonne nouvelle. Dans le Var, là, par chez moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à trouver des créneaux pour se faire vacciner. Toute la journée, on est confronté à un public, des gens de tous âges, de tous milieux qui risquent de nous contaminer. Parce que là, on vit avec la hantise, entre guillemets, d'attraper le virus, d'être malade, de le passer à nos proches, à nos familles. Bon, c'est une tension permanente. C'est vrai que bon, on est protégé, on a les masques, mais bon, je vous dis, on rencontre tellement de monde du matin au soir. On a beau se protéger, le risque est toujours là. Donc c'est vrai que si la vaccination nous apporte cette possibilité-là, de pouvoir revivre normalement, c'est un atout supplémentaire.
Daniel, qui est caissière donc dans le Var, ravi de faire partie de ces futurs vaccinés. Alors Olivier Samin, dans le détail, ça va se passer comment cette vaccination des travailleurs de deuxième ligne?
Eh bien, à partir de samedi prochain et pendant deux semaines, y compris le week-end, ces travailleurs vont avoir une priorité pour se faire vacciner dans des centres de vaccination, dont la liste va être fixée dans chaque région par les agences régionales de santé. Priorité qui se manifestera par des créneaux qui leur seront dédiés. Alors attention, ça ne concernera pas tous les travailleurs de deuxième ligne, uniquement ceux de plus de 55 ans qui appartiennent à une vingtaine de métiers dont la liste a été dressée ce matin par le ministère du Travail lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Ces métiers, ce sont entre autres chauffeurs routiers, conducteurs de bus, caissières, personnel des pompes funèbres, salariés des abattoirs, agents d'entretien, éboueurs, agents de sécurité, métiers qui ont pour particularité soit d'être exercés en milieu clos, soit de présenter des difficultés opérationnelles dans l'accomplissement des gestes barrières, soit d'avoir été identifiés par l'Institut Pasteur comme présentant davantage de risques. Les intérimaires qui travaillent dans ces métiers seront eux aussi éligibles à cette priorité de vaccination. Alors pour pouvoir bénéficier de ces créneaux réservés, il faudra présenter son bulletin de paye, une carte professionnelle ou à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'on travaille dans l'un de ces 20 métiers. Quant au produit qui sera administré, c'est le vaccin AstraZeneca.
Précision signée Olivier Samin du service Écho d'Europe 1 à propos de vaccins. L'Agence européenne des médicaments valide l'utilisation du Johnson. Elle estime que les risques sont que les bénéfices sont supérieurs aux risques, mais elle demande, comme pour AstraZeneca, que les risques de thrombose soient rajoutés sur la liste des possibles effets secondaires.
Anne Le Gall, concrètement pour nous, en France, qu'est-ce que ça signifie pour la suite de notre campagne vaccinale?
Eh bien, cela signifie que la vaccination avec Janssen va pouvoir commencer sans doute en début de semaine prochaine en France. Alors, il faut pour cela un dernier feu vert de la Haute Autorité de Santé. Mais le ministère a déjà prévenu, ce vaccin de Janssen sera réservé aux Français de plus de 55 ans, même règle que pour AstraZeneca, car on sait que le risque de thrombose est encore plus limité dans cette tranche d'âge et que le risque de forme grave, lui, est augmenté. Le vaccin de Johnson & Johnson aura l'avantage de ne nécessiter qu'une seule injection. Il sera accessible en ville via les médecins et les pharmaciens. 200 000 doses ont déjà été livrées à la France. Elles sont actuellement stockés chez les grossistes répartiteurs. 200 000 autres seront livrés d'ici fin avril et nous attendons près de 2 millions de doses de ce vaccin Janssen au mois de mai. Des livraisons conséquentes donc qui viendront s'ajouter à celles des trois vaccins déjà disponibles chez nous et qui devraient permettre, répète le ministère de la Santé, d'atteindre l'objectif de 20 millions de Français vaccinés mi-mai et 30 millions mi-juin.
Merci. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie, dit Olivier Véran, mais le ministre de la Santé reste quand même prudent. Il se déclare par ailleurs favorable à un déconfinement territorialisé.
Des rassemblements de policiers aujourd'hui un peu partout en France, après le verdict dans le procès de l'attaque de Viry-Châtillon en 2016. Des jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers, 8 sur 13 ont été acquittés.
Les rassemblements notamment à Lyon, Jean-Luc Boujon, des policiers très remontés qui voulaient exprimer donc leur colère.
Oui, une colère qui s'est exprimée devant le palais de justice de Lyon comme un symbole, hein, car c'est bien l'institution judiciaire qui est dans le collimateur des policiers. Ils étaient une petite centaine tout à l'heure. Institution accusée d'être trop laxiste avec ces délinquants qui veulent casser du flic. Pas admissible, selon Hervé Redon, responsable départemental du syndicat policier Alliance, qui était à l'initiative du rassemblement.
C'est de la colère, de l'injustice, du découragement. Ce sont tous des gens qui ont déjà commis les mêmes infractions, notamment contre les forces de l'ordre. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, autrement c'est plus possible. Nous, nous avons des fonctionnaires de police qui exercent leur métier. Leur métier est déjà assez difficile à exercer. Ils sont très clairement identifiés comme des tampons de la République, et ça, c'est plus supportable.
Voilà, pour Yannick Biancheri, policier en Isère, ce verdict est quasiment un appel à agresser des policiers.
Ça fait qu'augmenter ce sentiment d'impunité qui traîne dans ces quartiers. Voilà, on n'hésite plus à agresser, à violenter, voire tuer du policier. Donc il faut dire stop. Et pour dire stop, il faut que mes collègues les interpellent, mais aussi que la justice passe. Parce que c'est pas tout d'interpeller. Faut que derrière, si la justice ne passe pas, ben ça ne sert à rien.
Voilà, des policiers qui veulent se sentir soutenus dans leur tâche. C'est sans doute pour cela que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va recevoir ce week-end les fonctionnaires victimes de l'agression.
Le reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Un mandat d'arrêt international lancé contre Rémi Daillé, soupçonné d'avoir aidé les ravisseurs de la petite Mia. Le Français est exilé en Malaisie. C'est une figure de la sphère complotiste.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal. On l'a donc appris en milieu de journée. La disparition du président tchadien Idriss Déby, mort au combat dans le nord du pays. Il a succombé à ses blessures.
Il était au pouvoir depuis 30 ans et on en parle bien sûr ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors Idriss Déby, c'est un fils de berger devenu officier, formé à l'école de guerre de Paris, qui s'était autoproclamé maréchal il y a moins d'un an.
Oui, mais un maréchal qui a presque 69 ans est mort comme un jeune lieutenant, menant la charge à la tête de ses troupes contre une colonne de rebelles partie des confins du Tibesti, donc ce massif désertique de l'extrême nord du Tchad, à la frontière de la Libye et du Soudan, et qui faisait route vers N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président Déby aurait parfaitement pu attendre ses ennemis à l'abri, solidement retranché derrière les murs de son palais, et déléguer le combat à ses généraux. Les fidèles ne lui manquait pas, mais ce n'était pas son caractère. Dès le début de l'incursion, il a sauté dans son 4x4 de commandement et rejoint ses soldats en toute première ligne, comme il l'avait déjà fait lors de la dernière tentative de coup d'État en 2008, face aux mêmes dissidents de vagues cousins qui lui reprochaient de ne pas avoir assez redistribué les prébendes du pouvoir. Et déjà, à l'époque, il avait subi le feu. Son opérateur radio avait été tué par une rafale qui avait frappé son véhicule. Mais le courage d'Idriss Déby avait retourné la situation à son avantage et les rebelles avaient dû reprendre la route de l'exil. Eh bien, cette fois, c'est le commandant en chef lui-même qui a été mortellement blessé, mais pas avant d'avoir remporté la bataille. 300 rebelles auraient été tués, 150 fait prisonnier au cours de l'affrontement qui lui a coûté la vie, mais qui a sauvé le pouvoir de son clan. Et c'est bien ce que ses partisans admiraient chez Déby. Il était un guerrier, un véritable chef de guerre avant d'être un chef d'État. Ça lui était reproché par ses opposants. Son tempérament entier, allié à une certaine fougue, faisait certes des miracles sur le champ de bataille, mais laisser en revanche assez peu d'espace au débat et moins encore à la contestation dans la vie politique du pays.
Et pourtant, Didier François, il venait de remporter un sixième mandat à la tête du Tchad avec 65% des voix.
Oui, le résultat a effectivement été proclamé ce matin, quelques heures seulement avant l'annonce de la mort de son décès, ce qui laisse le Tchad sans président, une situation inquiétante pour ses alliés les plus proches, à commencer par la France, puisque l'armée tchadienne est une pièce absolument fondamentale dans le dispositif de la lutte antiterroriste au Sahel, que ce soit au Mali ou au Nigeria contre Al-Qaïda ou contre l'État islamique. Dans les contingents de l'ONU ou ceux du G5 Sahel, les soldats tchadiens font un travail remarquable. Ce sont d'excellents combattants commandés par des chefs militaires de grande valeur, comme l'était le maréchal Déby. On peut donc espérer, ou en tout cas Il faut vraiment l'espérer, une transition rapide qui préserve la stabilité et les capacités opérationnelles du Tchad.
L'œil de Didier François, tous les soirs dans le journal de 19h. Merci à vous.
Et on précise que pour l'instant, c'est le fils d'Idriss Déby, épaulé par l'armée tchadienne, qui préside le conseil de transition et que les obsèques nationales du président auront lieu ce vendredi en présence de chefs d'État et du gouvernement amis, peut-on lire sur le communiqué. Alors on ne sait pas si Emmanuel Macron y assistera, vu la situation sanitaire. En tout cas, la France perd un ami courageux, dit ce soir le président français. Paris qui exprime son attachement à la stabilité et à l'intégralité territoriale du Tchad. À son tour, le président du PSG, Nasser El Khelaïfi, monte au créneau pour dénoncer le projet de Super Ligue européenne de foot. Le Paris Saint-Germain, dit-il, a la ferme conviction que le foot est un sport pour tous. Nous sommes une famille et une communauté dont le cœur est constitué de supporters. Nous devons nous en souvenir, dit-il.
Bien, en attendant, d'un côté la Super Ligue, de l'autre notre bonne vieille Coupe de France, c'est le grand écart.
Ouais, deux quarts de finale se jouent ce soir et ce sont effectivement les petits clubs qui ouvrent le bal. À 21h, on suivra Canet en Roussillon qui affrontera Montpellier. Pour l'instant, eh bien, c'est Rumilly, club de National 2, qui joue contre Toulouse, club de Ligue 2, depuis maintenant un peu moins d'une demi-heure. Et figurez-vous que c'est Rumilly qui mène pour l'instant 1-0. Et donc 21h, l'autre quart de finale, Canet en Roussillon, Montpellier.
Ben voilà, c'est quand même plus excitant que cette Super Ligue. Merci.
C'est différent.
Merci Isabelle, c'est différent. Merci Isabelle Millet, on vous retrouve demain évidemment dans 18-20 à partir de 18h. La météo, douceur et humidité demain au programme, ma chère
oui,
Anissa.
Humidité pour le quart sud-est demain, le pourtour méditerranéen, le massif central, la région Rhône-Alpes où là les averses seront fréquentes dès demain matin. Elles seront même orageuses sur les reliefs. Dans les Cévennes, la pluie sera un petit peu plus importante. Sur tout le reste du pays, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Une journée mitigée donc sur le reste du pays. Dans le nord-est, prudence demain matin. Sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, pas mal de brouillard. Et puis côté température, bonne nouvelle, c'est la fin des gelées matinales. On aura 3 à 11 degrés demain dans la matinée, 7 degrés déjà à Paris. Et puis dans l'après-midi, 11 degrés à Gap, 13 à Aurillac, 15 à Lyon, 16 à Belfort-et-Lille, 18 degrés pour Paris, 20 à Bordeaux et 21 degrés, la maximale prévue pour Mont-de-Marsan. Plus qu'un jour de patience avant deux très très beaux jours, jeudi et vendredi.
Ah, des bonnes nouvelles enfin. Merci Anissa.
À demain.
À demain. Vous restez avec nous 19h13. Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées sur la montée, je le disais tout à l'heure, des réseaux complotistes et survivalistes. D'abord la carte blanche signée ce soir de l'entrepreneur Philippe Manière.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Manière.
Bonsoir Julien.
Essayiste, entrepreneur, ancien directeur de l'Institut Montaigne notamment. Alors ce soir, mon cher Philippe, coup de gueule contre le grand n'importe quoi des impôts et de l'administration fiscale, avec d'abord un constat assez étonnant. Chaque année, l'État rembourse des milliards d'euros aux entreprises.
Oui, c'est assez inattendu, c'est un peu à l'envers. Tout ça, l'an passé, les services fiscaux ont versé pas moins de 6 milliards aux entreprises. Ce n'est pas tout à fait rien, 6 milliards. Et ce chiffre spectaculaire qui vient d'être exhumé par les échos d'un rapport de la Cour des comptes s'explique. Alors, pourquoi ce versement à l'envers, si on peut dire? Eh bien, tout simplement, en remboursement de trop perçus, l'État avait exigé cette somme de plusieurs sociétés de gestion ou encore d'Orange. Ces contribuables ont payé, comment faire autrement, mais ils ont contesté la douloureuse en justice et ils ont gagné. Bercy a donc dû s'exécuter et leur faire cet énorme chèque qui inclut d'ailleurs 1 milliard d'euros de pénalités de retard parce qu'en plus l'État ne voulait pas volontiers admettre sa défaite.
Mais alors là, Philippe Manière, va falloir nous expliquer comment se produit une telle erreur. Parce que moi, ça ne m'arrive pas souvent que l'État me rembourse de l'argent.
Moi non plus, hélas. Alors, il y a bien évidemment dans cette affaire l'appétit du percepteur. Vous connaissez l'état de nos finances publiques. Il faut faire rentrer l'argent. Mais au-delà, c'est bien la complexité de notre système qui ouvre fatalement la voie à des contentieux en cascade. La première victime de cette complexité, c'est évidemment le contribuable. Et cela n'a d'ailleurs pas échappé au juge. En 2006, pour la première fois, eh bien, le Conseil constitutionnel avait affirmé que les Français avaient droit à des textes compréhensibles en censurant justement un article de loi assez croquignolet. Je vous fais juge de l'élégance et de la légèreté de ce texte assez poétique que je vais vous lire. Il s'agit justement du calcul de l'impôt. Accrochez vos ceintures.
On est parti.
Petit A. Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du petit 1 et du prélèvement prévu à l'article 125A.
Petit b, au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197, diminué du montant des déficits reportables sur le revenu global dans des conditions prévues au premier alinéa de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au 2 de l'article 154 quinquies, des sommes visées, bon, je vous la fais courte, ça continue comme ça, majoré des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125A, fin de citation. Voilà, Julien, la loi. En France, c'est trop souvent ça.
Vous feriez un très bon agent des services fiscaux. Non mais, plus sérieusement, c'est vrai, Philippe, tout ça ?
Ben oui, c'est vrai. Hélas, ce n'est pas un cas isolé. Quand on regarde nos codes fourmillent de passages à peu près aussi indéchiffrables, avec des dérogations, des exceptions, des exemptions, qui soit se cumulent, soit au contraire se limitent les unes les autres. Tout ça en un joyeux bazar. Alors on sait depuis longtemps que cette complexité pose un réel problème démocratique. D'abord, parce que ça n'a plus aucun sens de dire, selon la formule, que nul n'est censé ignorer la loi, hein, quand elle est à ce point impénétrable. Ensuite, parce que seuls les contribuables qui ont les moyens de se payer le conseil d'un expert peuvent espérer s'en sortir, ce qui est foncièrement injuste. Mais on apprend donc maintenant que l'État, lui-même, est victime de cette complexité, qu'il est lui aussi incapable de s'y retrouver au point d'être condamné en justice. Dans le fond, c'est presque réjouissant.
Bien, c'était la carte blanche de Philippe Manière. Merci à vous, cher Philippe.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à cette mouvance, notamment des survivalistes qui semblent impliqués dans l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans retrouvée saine et sauve, heureusement dans un squat ensuite en Suisse avec sa mère. Aujourd'hui, on a appris donc l'implication d'un gourou français qui se cacherait en Malaisie, figure de la sphère complotiste. Il aurait exercé une influence sur les ravisseurs. Alors, qui sont vraiment ces survivalistes, adeptes de la fin du monde, proches de l'extrême droite pour certains, et quel est leur vrai pouvoir? Il paraît que les services de renseignement s'y intéressent de près. On en parle donc ce soir avec nos invités, notamment Bertrand Vidal. Bonsoir, vous êtes sociologue, spécialiste du survivalisme, maître de conférences à l'université Paul-Valéry Montpellier III, auteur de Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde? On en parle également avec Laurent Combalbert. Bonsoir, vous êtes un ancien négociateur du RAID qui a étudié justement ces mouvements survivalistes et collapsologue, auteur de Négo aux éditions Calmant-Lévy, sorti il y a quelques mois. Et on en parle avec Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien président de la Miviludes. Vous faites partie du conseil d'orientation de la Miviludes depuis avril 2021, tout récent. Auteur de Gare aux gourous, santé, bien-être, enquête sur les dérives thérapeutiques d'aujourd'hui aux éditions du Rocher. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à ce gourou. Un profil assez étonnant, assez inquiétant, Rémi Daillé. D'abord, est-ce que vous connaissiez son existence, Laurent Combalbert?
Alors, tout à fait par hasard, puisqu'il se trouve qu'il s'est présenté aux élections municipales dans un tout petit village de Haute-Garonne, duquel je suis originaire.
Et donc, je l'ai... pur hasard.
Ah, complètement le hasard. J'ai eu la surprise de voir son nom dans les jours qui ont passé, mais je l'ai connu comme ça.
Oui, parce qu'il était engagé politiquement aux côtés du MoDem. Avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir un court extrait au micro de Marion Dubreuil, parce que ce personnage a été contacté par nos services depuis la Malaisie, et il félicite les ravisseurs et se félicite, en somme, de cette opération d'enlèvement de la petite Mia.
Là, c'est la restitution aux parents qui a l'autorité parentale. C'est l'État qui enlève des enfants. Par dizaines de milliers chaque année. La restitution, est, pour ce que j'en sais, c'est très bien passé. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait, en bon père de famille, et ils ont parfaitement raison de le faire, et je les en félicite.
C'est grave ce qu'on entend là, Georges Fenech.
C'est hallucinant.
Oui. Vous connaissiez l'existence de ce monsieur?
Non, je ne sais pas du tout, mais il revendique, il persiste et signe dans une affaire qui relève de la cour d'assises. Hein. Nous sommes dans un enlèvement d'enfants de nature criminelle. Il les félicite. Donc, je pense que la justice française, en liaison avec la coopération internationale...
Oui, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre ce monsieur.
Finiront le plus vite possible par lui mettre la main dessus. Parce que là, il nargue, vraiment, nargue.
Il a 54 ans. Il est ancien militant politique, on l'a dit. Il fait aujourd'hui figure de gourou dans cette affaire d'enlèvement. Il est très populaire dans la mouvance complotiste qui appelle au renversement du gouvernement français. Le Parisien nous apprend également qu'il serait impliqué dans plusieurs enquêtes, notamment celle de l'attaque d'une gendarmerie de Dax en novembre. Il serait parvenu, pareil, à influencer l'auteur de cette attaque. Que représente aujourd'hui Laurent Combalbert, ces mouvances de complotistes survivalistes auxquelles appartient ce monsieur, par exemple?
C'est vrai qu'on a du mal à avoir des chiffres exacts sur le nombre de ces personnes. Ce que je sais, c'est que les ayant rencontrés quand j'ai préparé la rédaction du roman, j'étais assez surpris de voir leur volonté de faire s'effondrer le système. Je les appelle les effondristes. Ils sont dans une logique de vouloir renverser le système et sont prêts à tout pour le faire.
Ils se présentent comme des dissidents du système.
Oui, des antisystèmes.
Mais on a du mal à voir la différence, si tant est qu'il y en ait une, entre les anarchistes, plutôt à gauche, et ces complotistes survivalistes, plutôt classés à l'extrême droite.
Oui, c'est vrai que la notion de survivalisme, elle est plutôt, dans ma tête, plutôt positive. Les survivalistes que j'ai rencontrés, je trouve d'ailleurs que ce nom n'est pas très approprié, les néo-survivalistes sont des gens qui sont dans la recherche de l'autonomie, de l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Ils ont une vision, je dirais, optimiste d'un effondrement partiel du système, alors que les autres sont dans la recherche de cet effondrement. Oui. Ils sont en train d'organiser la chute du système.
Parce qu'il y a plusieurs survivalistes, hein. Il y a les décroissants écolos, on va les appeler comme ça, on en parlera tout à l'heure, avec notamment un personnage connu, ancien ministre, Yves Cochet. Et puis il y a les survivalistes apocalyptiques qui pensent que le monde va s'écrouler et qu'il faut prendre les armes par conséquent. Bertrand Vidal, c'est à peu près ça le corpus idéologique aujourd'hui de ces mouvances ?
Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, je pense que c'est un peu exagéré. Je pense qu'il y a surtout énormément de survivalistes entre deux, en fait, des personnes qui sont simplement angoissées de l'état du monde, des personnes qui s'intéressent, en fait, à énormément de problèmes économiques, géopolitiques, oui, sociétaux, et qui décident de se préparer du jour au lendemain à la possibilité d'un effondrement.
Oui, mais il y a quand même une tendance sectaire autour de tout ça, Georges Fenech, hein, parce que beaucoup de ceux qui ont vraisemblablement participé à l'enlèvement de la petite fille Mia étaient déjà dans les radars de la DGSI, les services de renseignement intérieur, pour des projets, nous dit-on, de destruction de centres de vaccination, de centres des impôts, de banques et ou de signalisation ferroviaire. Enfin, c'est quand même des activistes, oui, ces gens-là.
Oui, ceux-là, ce sont, on peut dire, des survivalistes complotistes.
Oui.
Qui rejettent toute forme d'élite, qui considèrent, et dans cette affaire Mia d'ailleurs, il s'agissait de sauver cette petite du grand réseau international pédophile parmi les élites. Vous voyez,
oui. Donc ils ont on retombe sur les complotistes QAnon, hein, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la campagne présidentielle
absolument,
américaine.
Absolument, vous savez, tout ça vient des États-Unis. Hein. Le mouvement des survivalistes est né dans les années 60 aux États-Unis. On les appelle là-bas des preppers. Ce sont des gens qui se préparent. Ils sont préparés, oui, à un événement majeur qui peut être une grande crise sanitaire, d'ailleurs, qui peut être aussi un effondrement apocalyptique d'origine climatique, que sais-je encore, ou nucléaire. Et donc, là-bas, aux États-Unis, ce sont des mouvements qui sont bien connus. Vous avez des sociétés, de véritables industries. Hein. Il y en a une, Vivos, par exemple, qui construit des bunkers à raison de 50 000 dollars la place, des bunkers de 200 places, donc c'est très industrialisé. Vous avez des ventes par Internet de kits de survie. Vous avez donc une, oui, véritable industrie et des gens qui, effectivement, stockent de l'eau, de la nourriture, des produits lyophilisés et qui s'arment également.
Oui.
Parce qu'on pense qu'il peut y avoir évidemment des événements dramatiques.
Oui. C'est Walking Dead, comme dans la série où on se promène avec
son
arbalète, on va chercher de la nourriture.
Alors en France, on en est arrivé un peu là en 2012. Si vous voulez, je vous dirai ce que j'avais vu,
oui,
à l'époque,
oui,
quand je présidais Amivilude. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu de signalement.
Mais ce que vous dites sur le business des survivalistes, on pourrait se dire c'est bon enfant tant qu'ils font de mal à personne. Mais là, dans le cas d'espèce, ça dépasse le simple cas des survivalistes. Ce sont des complotistes aussi. Rémi Daillé, je voudrais qu'on le réécoute parce qu'il y a quelques mois, à l'époque notamment des Gilets jaunes, il s'était beaucoup exprimé. Il avait été d'ailleurs dans les radars de la DGSI. Il disait ceci, il appelait au renversement du gouvernement français.
Vous pensez mettre en place votre système de contrôle, de privation des libertés. Mais c'est nous qui allons vous chasser. Membres du gouvernement, je vous adresse cette première sommation. Nous allons arrêter et destituer le président. Nous irons libérer la terre de France et vous ne nous arrêterez pas.
Parce que c'est grave ça. On a vu comment ça s'est terminé aux États-Unis, Laurent Combalbert. Ça s'est terminé par ce mouvement de foule d'envahissement du Capitole.
Bien sûr. Bah, vous justifiez ce type d'acte par une idéologie qui va se raccrocher à cette logique d'effondrement. Et ça, ouais, tombe très bien, puisque le système est mauvais, le système est pourri, les complots sont partout. Et regardez d'ailleurs, on va appuyer sur le bouton pour que ça s'effondre un petit peu plus vite.
Mais ils ont un vrai pouvoir d'influence, ces gens-là, grâce à Internet, grâce à les réseaux sociaux.
Bah, la difficulté, c'est qu'on a du mal à chiffrer le nombre de ces personnes. Par contre, ils ont une influence réelle, puisqu'ils sont assertifs, très engagés dans la défense de leur position, et très sûrs d'eux. Quand on entend Rémi Daillé parler, il est absolument très sûr de lui, et il a l'air d'affirmer ça comme une vérité absolue.
Ouais.
Et en plus, vous allez chercher des théories du complot qui vont alimenter cette pensée-là. Vous allez tordre la réalité, là. Le fait de voir des formes dans l'informe, et c'est ce qui va derrière permettre à certains d'interpréter les faits pour pouvoir les ramener dans cette idéologie.
D'après un sondage que je m'étais procuré à l'époque,
Georges Fenech,
il y a quand même 58% d'Américains qui prennent l'apocalypse très au sérieux. 58% d'Américains qui croient véritablement la survenance de l'apocalypse. Vous voyez, vous avez un terreau là très fertile, ouais, pour tous ces, toutes ces organisations complotistes, survivalistes.
Il n'y a pas de sondage équivalent chez nous en France.
Non, en France, il n'y a jamais eu de sondage. Et on n'en est pas là, grâce à Dieu. On n'en est pas là. Mais vous savez, tout ce qui naît aux États-Unis finit un jour ou l'autre par arriver. Tout ça a pris naissance au New Age, hein, 1960. On a vu arriver toutes les grandes sectes chez nous, hein, la scientologie et autres. Et puis aujourd'hui, il faut craindre, en tout cas il faut surveiller, la DGSI le fait, ces mouvements survivalistes qui s'étaient manifestés en 2012, je vous raconterai.
Réaction Bertrand Vidal.
Oui, je pense que même, c'est un peu différent, mais l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès a publié un sondage en 2020, donc très récent, comme quoi 65% des Français croient que la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir, et même assister de leur vivant à cet effondrement. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'apocalypse, mais c'est une nouvelle forme d'apocalypse, une apocalypse parfois qui se part d'atours scientifiques, d'atours beaucoup plus rationnels qu'auparavant.
Bien, pour rester avec nous, on marque une première pause, on continue évidemment d'en parler avec nos invités. À tout de suite dans le Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, la suite du débat du Club des Idées, on continue à s'intéresser à cette mouvance des survivalistes après les dernières révélations concernant le profil des ravisseurs dans l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans, retrouvée saine et sauve dans un squat en Suisse avec sa mère et notamment sur ce gourou qui se cacherait en Malaisie et qui aurait influencer ces ravisseurs. Je voudrais qu'on dise peut-être un mot, parce que c'est vrai que ces mouvements sont influencés par la mouvance QAnon aux États-Unis, de ce qui se passe justement de l'autre côté de l'Atlantique. Georges Fenech, vous êtes ancien président notamment de la Mividul, vous faites partie aujourd'hui du conseil d'orientation de la Mividul. Les QAnon, on en a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle américaine. D'ailleurs, Donald Trump, de ce point de vue-là, jouait un jeu trouble avec cette mouvance dont il avait le soutien. Pourquoi ? Parce que ce sont des complotistes qui rejoignent des croyances nées en 2017, vous me dites si je me trompe, des théories conspirationnistes qui pensent que les élites commettraient des crimes pédophiles et sataniques, et c'est pour cela qu'ils cherchent à récupérer des enfants. Et ils avaient érigé Donald Trump, en quelque sorte, comme leur sauveur. Alors, je vous pose la question parce que le mouvement QAnon est en train d'apparaître en France, notamment la lettre Q, qui a été tagué Place de la République à Paris en marge d'une manif des Gilets jaunes. Ça, c'est vraiment nouveau.
C'est nouveau. Mais vous savez, cette lettre Q correspond à l'individu que personne ne connaît. On n'a aucune identification de ce gourou qui est derrière ce mouvement. Oui. C'est quand même assez extraordinaire. Hein.
Oui.
Et effectivement, vous avez raison, on voit apparaître maintenant, et sur les réseaux sociaux, effectivement, ce mouvement qui commence à inspirer quelques groupements chez nous également.
Et j'ai vu que le groupe QAnon en France sur Facebook a dépassé les 30 000 membres avant d'être supprimé par le réseau social.
Oui,
il y a quelque chose de plus inquiétant. C'est que j'ai regardé un peu le détail de l'affaire Mia et j'ai lu qu'on a découvert que l'an dernier, la mère de Mia écrivait sur Facebook ceci: ils envoient leur larbin des services de protection de l'enfance enlever des enfants qui sont destinés à alimenter le réseau pédocriminel satanique. Ça veut dire que cette maman était convaincue de l'existence et appartenait à ce mouvement QAnon, et que c'est sans doute la raison pour laquelle elle a commandité l'enlèvement de sa fille.
Oui, je crois qu'on commence à comprendre maintenant le mécanisme de cette mise en rapport, mais elle-même d'ailleurs s'apprêtait, dit-elle, à vivre une vie marginale, à ne pas se sédentariser, de partir sur les routes avec sa fille. En fait, elle refusait le système, quoi. Elle refusait l'appartenance à une société, elle refusait toute décision de justice. Elle n'a pas hésité à faire appel à ceux avec qui elle partage ses thèses, effectivement, complotistes.
Alors, plusieurs choses là-dessus. Laurent Cobalbert, vous êtes ancien négociateur du RAID, vous connaissez bien cette mouvance survivaliste, et vous êtes auteur de l'ouvrage Négo. Vous en avez rencontré, vous, des membres de cette, on peut dire une secte d'ailleurs, QAnon, ou mouvance QAnon ?
Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui s'en revendiquait, qui était un hacker, qui avait attaqué un système d'information dans une institution financière pour laquelle j'avais été mandaté de négocier la rançon pour libérer le système. Et dans la discussion, il m'a dit que son objectif, finalement, ce n'était pas l'argent, c'était de casser le système financier international et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de virements bancaires, qu'il n'y ait plus de diffusion d'argent. Justement, dans cette logique, il se revendiquait des QAnon.
Ouais. Et d'ailleurs, dans l'affaire Mia, vous avez vu qu'il n'y a pas... Ils ne sont pas motivés par l'argent non plus. Ouais. Hein.
Non, c'est la question que j'allais vous poser, Laurent Cobalbert. Ce qui est fou, c'est que à distance, via l'influence vraisemblablement de ce gourou et la volonté de cette mère de récupérer sa fille, alors qu'elle n'en avait pas la garde et qu'elle n'avait pas le droit, on le rappelle, hein, de la voir seule, ils ont organisé une expédition comme le feraient des militaires. très organisée, avec des faux documents de l'assistance publique à l'enfance, avec des faux papiers, avec un discours bien rodé, avec un réseau pour emmener l'enfant retrouver
des
sa mère.
Des véhicules relais, passage à l'étranger,
des véhicules maquillés.
Ce qui caractérise, c'est ça qui fait peur dans cette histoire.
Bien sûr. Ce qui caractérise le survivalisme au sens large, c'est la préparation. La préparation à un effondrement partiel ou total. Le survivalisme optimiste se prépare à l'autonomie, à l'autosuffisance, et les agressifs se préparent à l'autodéfense et à la protection de leurs enjeux. Donc quand vous avez une mission qui vous est donnée, qui est validée par celui qui vous donne du sens et que vous en faites une mission de justicier, eh bien effectivement, vous êtes prêt à aller à des actes illégaux et de risquer la prison à vie, bien sûr.
Il y a Bertrand Vidal, vous êtes sociologue, spécialiste de la question. Pardon de cette question un peu naïve, mais il y a un profil type de cet embrigadement conspirationniste, survivalisme.
Oh là là.
pas une question facile.
Je ne sais pas si on peut aller aussi loin, en fait. Je pense que les survivalistes, en fait, sont des individus, comme vous et moi, en fait, des individus même assez cultivés, ceux que j'ai pu rencontrer, qui possèdent, tous ceux que j'ai pu rencontrer, une bibliothèque, qui s'intéressent énormément de choses, qui même ont des niveaux d'études assez bons, en tout cas, tous ceux que j'ai pu rencontrer sont des niveaux d'études post-bac, mais qui sont insatisfaits de la société. Alors, bien sûr, ils vont critiquer le système. Bon, l'avantage de critiquer le système, c'est que ça veut tout et rien dire, mais aussi, ce sont des individus qui, plus que passer à l'acte, passer à l'action, se racontent des histoires de fin du monde dans laquelle, souvent, ils vont se placer en élus de l'apocalypse, en héros de ce monde d'après, en fait. Cela leur sert surtout à sortir aussi d'un quotidien qu'ils n'apprécient pas. Ils subissent une certaine frustration, une frustration relative qu'on appelle...
Il y a le côté Georges Fenech un peu justicier, mais justicier quand même hors la loi, qui fait des choses absolument invraisemblables. Il y a la caisse de résonance aussi des réseaux sociaux et d'Internet qui joue beaucoup dans cet embrigadement.
Bien sûr, il y a les réseaux, c'est devenu le premier point d'entrée de tous ces mouvements. Je voudrais quand même, bien qu'on ait présent à l'esprit, que ce genre de mouvement peut déboucher sur des drames absolus. Les États-Unis, souvenez-vous, l'affaire du temple de Guyana avec Jim Jones, qui a emporté 900 morts, femmes et enfants compris, par empoisonnement collectif. Souvenez-vous du drame de Waco, c'était aussi des sectes apocalyptiques qui refusaient, qui s'étaient isolés, qui vivaient en forêt et qui refusaient toute forme de société telle que nous la connaissons. Souvenez-vous également chez nous de l'ordre du Temple solaire, qui était aussi apocalyptique et qui se sont sacrifiés, 16 personnes se sont sacrifiées de leur vie terrestre pour rejoindre l'étoile Sirius et sauver toute l'humanité. Donc je pense que ces mouvements qui sont persuadés d'une apocalypse imminente, je ne parle pas des survivalistes, je dirais ceux qui se préparent à survivre. Je parle de ceux qui pensent vraiment à un effondrement, un collapsus, quoi. Vraiment un
effondrement. Les effondristes.
Les effondristes, voilà.
C'est leur objectif.
Voilà. Ceux-là vont faire des recrues. Et je vous dis, moi, je les ai découverts. En 2012, vous vous souvenez, on avait parlé de la fin du monde le 21 décembre 2012, avec le calendrier Maya, etc. Et je m'étais rendu dans les Pyrénées-Orientales, notamment dans le Haut-Val-Espire, où nous avions découvert une secte apocalyptique qui s'appelle Ramta, qui existe toujours en France d'ailleurs, et qui était installée à Amélie-les-Bains, à Rennes, à La Manère, avec des constructions de bunkers, de tout un système de survie, etc. Et on avait découvert à peu près l'équivalent aussi en Bretagne, précisément, et nous avions notamment découvert des bunkers souterrains de plus de 300 mètres, qu'ils avaient fabriqué à 5 mètres de profondeur sous une épaisse chape de béton. Il y avait un dolmen, deux menhirs, la police judiciaire était intervenue, il y avait un atelier de scierie, un énorme groupe électrogène, un amphithéâtre, des pièces ornées de fresques apocalyptiques. Donc chez nous, il y a quand même eu ce phénomène qui s'est manifesté. Les mouvements apocalyptiques vont reprendre de la vigueur dès lors qu'il y a une crise. On a vu avec la crise du Covid, ces mouvements vont reprendre de la vigueur. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation très propice à ces mouvements.
Bertrand Vidal, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devient collapsologue ou on devient survivaliste? Pourquoi est-ce qu'on a envie de croire à cette histoire d'effondrement et de s'en protéger à tout prix?
Je pense en fait qu'on n'a plus de mythes communs, d'histoires communes. Et justement, on a besoin en fait on vit dans une société en perte de sens en fait, hein, où on est empêtré dans la routine du métro, boulot, dodo. On a besoin de retrouver un peu de sens. Et quoi de plus palpitant aussi qu'une histoire d'apocalypse? Et en tout cas, c'est la plupart des survivalistes que j'ai pu rencontrer, des néo-survivalistes plus que des survivalistes traditionnels qui sont quand même, on va dire, très xénophobes, liés à l'extrême droite libertarienne nord-américaine. sont des individus en fait qui aiment se raconter des fables de fin du monde dans lesquelles ils ont un beau rôle à jouer, dans lequel en fait ils se présentent comme des élus de l'apocalypse. Autrement dit, je le dis souvent, ils jouent en fait comme autrefois on jouait aux cow-boys aux indiens. En fait, ils jouent le rôle du survivant, en se racontant une histoire. Souvent, on le voit sur les médias sociaux, ils utilisent des pseudos pour prendre leur identité, de survivaliste. Et puis, à travers ces pseudos, ils racontent des histoires. Le problème, c'est que certains vont raconter des histoires, on va dire très soft, histoires où il faut retourner à la nature, où il faut avoir un pseudo animaliers, se rapprocher de notre nature, étant donné que leur histoire, la plupart du temps, c'est toujours la même. Aujourd'hui est lourde catastrophe, demain sera pire, donc c'était mieux avant, il faut retourner un peu en arrière. Et d'autres, en fait, vont se raconter d'autres histoires, où ce n'est pas nos origines animales qui sont mises en avant, ce sont des origines fantasmées, primitives, des origines, on va dire, identitaires, le gallois, le gaulois, le saxon. Le fondateur du mouvement s'appelait Kurt Saxon, le saxon brutal, qui voulait défendre les wasps, les white anglo-saxons protestants. On a des survivalistes qui se disent vikings, etc., etc.
Bien, merci pour ces précisions. Vous restez avec nous, 19h41. On marque une courte pause, quelques secondes, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, dans le Club des Idées, on continue de parler de cette mouvance des survivalistes et des complotistes après les révélations sur le gourou et les ravisseurs de l'enlèvement de la petite Mia. Alors, Laurent Cobalbert, ancien négociateur du RAID, auteur de l'ouvrage Négo, vous me disiez pendant la pause, ces gens-là sont dans une quête de sens finalement.
Oui, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, ils vont avoir un sens, on va donner un sens à leur vie, mais comme vous pourrez l'avoir pour un terroriste. Vous avez un monde dans lequel vous avez peur de ce qui va se passer. Je crois qu'on vit aujourd'hui une situation qui ressemble quand même de plus en plus à un scénario catastrophe, avec la crise de la Covid, avec le fait de ne pas savoir quand on va arriver à gérer tout ça. Et donc certaines personnes vont se raccrocher à une idée, que ce système va s'effondrer, et pour certains qu'il devrait s'effondrer, mais s'organiser pour ça. Et vous allez tout d'un coup vous structurer, vous préparer pour faire face à cet événement.
Est-ce que vous estimez qu'avec le socle qui les fédère, des réseaux sociaux, d'Internet, la facilité de communiquer, on l'a vu avec ce monsieur qui, a priori, se trouve en Malaisie, qui arrive à commander un réseau de kidnappeurs chez nous en France, est-ce que c'est une mouvance qui représente une vraie menace pour la France ?
Comme toute mouvance dogmatique, à partir du moment vous êtes persuadé que votre cause est la seule cause juste, que vous reconstruisez la réalité pour qu'elle vienne structurer, solidifier votre cause, vous pouvez aller jusqu'au bout, bien sûr. C'est le même fonctionnement pour un terroriste.
Georges Fenech.
Bien sûr.
De fanatisme, où on va aller même jusqu'au sacrifice quelquefois de sa propre vie pour défendre son idéologie. C'est vrai, vous avez raison de faire le parallèle avec le terroriste qui va trouver, d'ailleurs, et lui-même connaître une vie éternelle, paradisiaque, grâce à son sacrifice.
Oui.
On est là vraiment sous une forme, on pourrait dire, d'emprise mentale, quelque part. Hein.
Alors, j'ai retrouvé un exemple assez récent aussi d'un homme qui a eu un coup de folie et qui a tué 3 gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. C'était en décembre dernier. Le forcené avait été décrit par le procureur de Clermont-Ferrand comme catholique très pratiquement et survivaliste, persuadé d'une fin du monde prochaine. Donc ce sont des gens qui, quand même, passent à l'acte et menacent la sécurité publique. Vous êtes toujours avec nous, Bertrand Vidal ?
Oui.
Réaction sur ce point ?
Oui, je pense, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres en fait des survivalistes, mais là il s'agit de deux cas vraiment extrêmes. Le survivalisme en fait ne va pas regrouper en fait tous ces individus extrêmes. Le problème en fait peut-être, c'est que, encore bien que ce soit pas forcément un problème, parce que nous avions à l'origine en fait du mouvement dans les années 60-70 un individu qui éditait en fait via le parti nazi américain des livrets, des conseils, qui animait des séminaires autour du survivalisme. Il a été inculpé pour incitation à la haine et terrorisme, étant donné qu'il fallait se débarrasser des menaces de l'époque, la menace rouge. Aujourd'hui, le survivalisme a changé, et en changeant aussi, étant donné que les peurs collectives ont changé, en fait, en changeant, les grands gourous, en fait, mais ce n'est pas le terme qu'il faudra employer, ont disparu du survivalisme. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que pour devenir survivalisme, le premier biais, en fait, le premier moyen, c'est d'utiliser les médias sociaux, d'aller sur YouTube, d'aller sur Facebook, de taper un hashtag sur Twitter, etc., etc. Et on va tomber sur des micro-influenceurs, des personnes qui vont nous dire Moi, j'ai une solution à toutes vos angoisses. J'ai identifié le problème. Et là, c'est sûr qu'on peut rentrer dans des considérations complotistes, des considérations extrêmes. La plupart du temps, les survivalistes vont se réfugier en fait, dans des théories écologistes qui sont bon enfant, on va dire, qui participent à des stages de survie où ils apprennent à reconnaître les plantes et autres. C'est sûr que quand ils tombent sur des personnes qui vont dire non, le problème c'est l'immigration, le problème c'est la perte des valeurs occidentales, etc., etc. On peut entrer dans un jeu dangereux.
Oui. Alors justement, vous me tendez la perche, on va terminer la discussion là-dessus. C'est vrai que l'essor de la collapsologie, et là on ne parle pas du tout de terrorisme, ça fait aussi partie de la mouvance du survivalisme. Ce sont des adeptes qui pensent que le monde moderne, le monde contemporain va s'effondrer, qu'il faut s'y préparer et anticiper. Alors les adeptes situent cet effondrement autour de 2030 et il y a parmi ces adeptes des gens relativement connus comme l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet qui en interview aux médias Brut en 2019 disait ceci.
J'ai quand même une certitude sur l'imminence de cet effondrement catastrophique dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, dans la mesure où les services de base ne sont plus assurés, hein. Services de base, la sécurité, l'alimentation, l'eau, l'électricité, les télécoms. Oui, vers 2050, on sera peut-être proche de 10 milliards. Non, on ne sera jamais 10 milliards. Parce qu'à cause de cet effondrement, ce qu'on a connu comme hécatombe dans les deux guerres mondiales nous paraîtra peu par rapport à ce qui va venir dans 10-15 ans.
Alors, il y a évidemment, on le reprécise, aucun lien avec ce qu'on a expliqué avant. On n'est pas du tout dans le même niveau de mouvance. On va peut-être expliquer ce que c'est que la collapsologie. Il y a eu des bouquins tout à fait sérieux hein, qui ont parlé de ça avec des adeptes qui pensent qu'on va arriver à un point de rupture de l'économie de marché, de l'économie mondialisée, avec par exemple un effondrement ou une rareté du pétrole, qui fait que le monde, par effet de ricochet, va s'effondrer petit à petit. Je parle sous votre contrôle, Georges Fenech, hein, oui, c'est à peu près ça, et qu'on va se retrouver dans un monde où le progrès technique aura disparu et c'est un peu le et retour à la Terre.
Oui, ce que vous dites là relève de la pensée, de la croyance, ça ne doit même pas intéresser, à mon avis, les pouvoirs publics. Hein. Ça, chacun est libre de croire, effectivement, en un effondrement. Là où les pouvoirs publics, et je pense notamment à la mission interministérielle, la MIVILUD, doit intervenir, c'est dès lors qu'il y a effectivement des menaces pour l'ordre public, des passages à l'acte. On voit à travers cette affaire Mia, la DGSI, les suivait. Et donc, c'est ce qui doit guider l'action des pouvoirs publics. Ce n'est pas le survivaliste qui stocke de l'eau, de la nourriture et qui apprend à chasser et à cueillir comme autrefois pour survivre qui intéresse les pouvoirs publics. Ce qui intéresse les pouvoirs publics sont effectivement ceux qui sont prêts à une action violente, comme il y en a eu aux États-Unis, notamment le groupe Utari, hein, qui s'apprêtait à renverser l'État fédéral et qui ont été arrêtés par le FBI. Ce sont ces mouvements-là qui doivent effectivement intéresser les pouvoirs publics.
Oui. Vous êtes sensible à ces thèses de collapsologie, Laurent Combalbert ?
C'est vrai que j'ai lu tous les livres sur le sujet, à commencer par Jared Diamond, Pablo Servigné. C'est vrai que scientifiquement, on a des données, on a des statistiques, on a des prévisions. Le peak oil qui aurait été dépassé en 2010, c'est-à-dire que le pétrole devient de plus en plus cher pour être extrait. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher ces éléments. Et ça justifie pour certains survivalistes de se préparer à avoir un moindre impact écologique. Et ça, on peut que s'en féliciter parce que finalement, ils ne sont pas dangereux, ceux-là ne sont pas dangereux. Ceux-là sont plutôt dans une recherche positive. C'est surtout les groupes extrémistes qui s'appuient là-dessus et qui revendiquent leur théorie de défondrement du système qui, eux, peuvent devenir très dangereux.
Bertrand Vidal.
Oui, je pense que dans les deux cas, on est dans une pensée toutefois apocalyptique. Comme je vous le disais au départ, hein, l'apocalypse aujourd'hui a pris un crédit scientifique. C'est vrai que certaines données sont indéniables, mais il n'en demeure pas moins qu'on est, comme dans toute pensée apocalyptique, dans ce qu'on appelle une conscience dichotomisante du monde, une version très manichéenne avec d'un côté les bons et les méchants. Les survivalistes, dans une jolie fable hein, qu'on connaît tous, parlent des cigales et des fourmis, donc des cigales qui ne verront pas passer l'hiver, soit nous autres en fait, parce que nous sommes empêtrés dans la société de consommation selon eux, et puis il y a les fourmis qui ont déjà fait leur stock et qui s'organisent désormais en colonies. J'ai lu récemment, devant l'effondrement quand même de Yves Cochet, c'est vrai que On n'appelle pas à l'action, en fait. Yves Cauchet le dit, il y a quand même une sorte de plan, quelque chose de presque divin, quelque chose qui va se passer, qui va faire peut-être à peu près 50% de la population va disparaître. Mais on est aussi dans cette pensée dichotomisante. D'un côté, il y a les résilients, et de l'autre côté, il y a les autres, les youtubeurs, les journalistes, les économistes, qui ne passeront pas l'hiver non plus.
Bien.
C'est, pour moi, les dérives. Ouais.
Bien, merci infiniment Bertrand Vidal. Vous avez votre bunker qui est prêt, Georges Fenech ?
Pardon ?
Vous avez votre bunker qui est prêt ?
Oui,
t'es prêt ?
Moi j'ai tout stocké, je suis prêt à l'apocalypse.
Bien. Voilà. Vous savez cultiver les carottes et les radis, tout va bien.
Voilà.
Merci Georges Fenech d'avoir participé à ce débat, merci Laurent Cobalbert. Votre livre Négo, et puis je rappelle votre livre Georges Fenech, Gare au gourou, santé, bien-être, enquête sur les dérives thérapeutiques d'aujourd'hui, c'est aux éditions du Rocher. Merci à tous les trois.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h55, la suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir, Romain Oquet.
Bonsoir.
Alors, ce soir, avec vous, on remonte au 20 avril 62, le jour où la guerre d'Algérie touche à sa fin. Et ce jour-là, il y a exactement 51 ans, le général Salan est arrêté.
Oui, c'est un vendredi à Alger, un matin où Raoul Salan, défenseur de l'Algérie française, chef de l'OAS, descend à son bureau au rez-de-chaussée de son immeuble. À l'extérieur, la police encercle le quartier. Des mois que les services secrets préparent cette opération. 13 tentatives ont déjà échoué pour arrêter Salan, l'officier le plus décoré de l'armée française. Imprenable, intouchable. Mais cette fois, Salan a été trahi, donné par son camp, jugé trop mou dans la lutte pour une Algérie française. Salan arrêté, la nouvelle est à la une des journaux à Londres, New York, Rome. Il est transféré d'Alger à Paris, emprisonné quelques heures après. La suite, c'est Jakourevitch qui la raconte sur Europe numéro 1.
Il est 10h moins le quart en face de la prison de la Santé. Une cinquantaine de jeunes manifestants crient Algérie française, tandis que de leurs cellules répondent les internés de la prison de la Santé. Le cortège arrive. Quarantaine de voitures environ composent le cortège. Il a été impossible de déterminer dans quelle voiture se trouvait l'ex-général Salan.
Salan arrive en prison. Pourtant, Roman, en 58, c'est lui qui participe au retour du général de Gaulle à la tête de l'État. Vive de Gaulle ! C'est même ce qu'il scande à la fin de ses discours. Alors, comment Salan se retrouve en prison 4 ans plus tard.
L'Algérie, voilà ce qui va diviser De Gaulle et Salan. Si le militaire défend coûte que coûte une Algérie française, De Gaulle, lui, change de discours jusqu'à parler d'une république algérienne. Une trahison insupportable pour Raoul Salan. Alors une nuit d'avril 61, lui et 3 autres hauts gradés font route vers Alger pour s'emparer du pouvoir. C'est le putsch des généraux. Un coup de force et au final un échec pour ces 4 militaires humiliés par le général De Gaulle qui prend la parole à la télévision.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Un quarteron de généraux en retraite, j'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi!
Voilà, ce discours, c'est le symbole d'une fracture, d'une cassure irréversible entre Salan et De Gaulle. À Paris, le Conseil des ministres déclare l'état d'urgence et ordonne l'arrestation des 4 militaires du putsch.
Oui, et pour échapper justement à son arrestation, Raoul Salan entre dans la clandestinité, mais reste à la tête de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète.
Oui, pour Salan, c'est le dernier moyen pour empêcher la marche vers l'indépendance. Et l'OAS monte en puissance. Ce bras armé meurtrier opte pour la stratégie de la terre brûlée avec des centaines d'attentats. 1500 à 2500 morts selon les historiens. Un lourd bilan pour Salan, arrêté finalement en avril 62. Un mois plus tard, il fait face au juge du Haut Tribunal Militaire. Un procès couvert par Europe 1.
Dans quelques minutes, le procureur général Gavalda, debout dans sa robe rouge et son mantelet d'hermine, face à l'accusé, doit commencer ses réquisitions. Salan a couvert ou ordonné les crimes de l'OAS. L'OAS a tué des centaines de personnes, en a blessé des milliers, a volé des milliards et a détruit pour des dizaines de milliards d'immeubles. Une dernière incertitude, Salan sortira-t-il de son silence avant la délibération du tribunal ?
Dans la salle d'audience bondée, le verdict tombe. Salan échappe à la peine de mort. Le militaire, ému aux larmes, est condamné à la perpétuité. Une victoire pour son avocat.
La Marseillaise a éclaté, ce qui fait qu'on n'a pas eu la suite. Mais la suite, vous savez, ça consistait à lui retirer la Grand Croix de la Légion d'honneur. Alors comme on la lui rendra bientôt, ça ne fait rien, tandis que la vie, on la lui aurait pas rendue. Voyez-vous ?
Bravo !
Voilà mon gars.
De Gaulle, en revanche, est amer, lui qui trouve ce verdict trop clément. Il décide même de dissoudre le tribunal militaire à la fin du procès. Salan est transféré à la prison de Tulle, où il restera jusqu'en 68, avant d'être amnistié par De Gaulle lui-même. Une mesure surprenante, mais indispensable selon lui, pour s'assurer de la loyauté de l'armée pendant les événements de mai 68.
Merci Romano Quay pour ce récit, merci à vous. Le rappel de l'info, Julien Pierce, merci de votre fidélité, on se retrouve demain 18h.